I watched sea beams glitter in the dark.
Maybe one of us saw too much. You're safer here than any place else.
Now relax. Close your eyes.
Just listen.
Bonjour et bienvenue dans Année Lumière, l'émission qui parle de cinéma, une année à la fois, en partenariat avec le magazine Cinématiseur et Tsugi Radio. C'est comme toujours Thibaut Gomez-Léal qui vous parle et on se retrouve à nouveau pour discuter d'une année de cinéma avec un invité. Avant de débuter, l'annonce traditionnelle, si vous aimez Année Lumière, n'hésitez pas à soutenir l'émission, même modestement, via Utip, U-T-I-P. Un immense merci à celles et ceux qui m'aident déjà tous les mois à produire le meilleur des podcasts possible. Ce mois-ci, mon invité est auteur, entre autres, des livres Les Guerres des Étoiles et Belmondo le Magnifique, documentariste et réalisateur, notamment de films sur Jean-Paul Rapneau, Claude Berry, Charles Bronson ou encore Gérard Jugnot. Cet homme qui se revendique archéologue de la pellicule perdue, c'est Jérôme Ouibon. Salut Jérôme.
Salut Thibaut. Sa place est dans un Blu-ray, je l'ai toujours dit.
Sa place est dans un Blu-ray, la phrase est dit. Comment ça va?
Ça va très bien, Thibaut.
Eh ben, écoute, je suis très très heureux de t'accueillir dans ce podcast, dans sa lumière. Ça fait longtemps effectivement que je suis les films que tu fais, les livres que tu sors, et c'est un grand plaisir de t'avoir dans cette émission. Alors, ce mois-ci, on va s'en balader dans un millésime passionnant, composé de films portés par de grands acteurs populaires, des figures uniques et iconiques qui naissent, d'autres qui disparaissent, laissant au passage leur marque indélébile dans la culture populaire et l'imaginaire collectif. Une année où le cinéma redessine ses frontières dans tous les registres donc, et notamment dans celui des mœurs et de la tolérance des spectateurs. Un septième art qui s'acoquine pour mieux questionner la société sur ses propres limites. Bref, aujourd'hui, on discute de l'année 1973. So I came to see him to listen for a while. And there he was, this young boy, a stranger to my eyes, strumming my fate with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song, killing me softly with his song. Softly with his song, chanté par Roberta Flack. On écoutait ça en 1973. Pourquoi avoir choisi cette année-là, Jérôme, 73?
Je ne sais pas. c'est mon année de naissance, donc c'est une année encore assez jeune. En plus, je me suis dit, mais c'est idiot parce que c'est une année sans film de Claude Sauté et sans film de Bertrand Blier. Enfin, c'est une aberration pour moi de choisir ça. Quand même, c'est une année importante, je trouve, dans la comédie française.
Ouais.
Parce qu'on a des films, on est évidemment post-68, et toutes ces révolutions de la société française se retrouvent dans les films.
Il se passe quelque chose, quoi.
Il se passe quelque chose, et aussi dans la comédie. C'est-à-dire que Rabbi Jacob n'est pas juste une comédie, je sais rien mais je dirais tout, de Pierre Richard, ça dénonce le trafic d'armes. Dans Le Grand Bazar de Claude Zidi, il dénonce les grandes surfaces face au petit commerce. Même la comédie est militante en fait.
Mais il y a une énergie, un mouvement sous-jacent qui prend les apparats de la comédie pour raconter quelque chose.
Voilà, il n'y a pas que le cinéma de Costa-Gavras qui est engagé, c'est tout le cinéma français, parce que en ce moment je travaille sur le cinéma français des années 70 pour différents projets, et je vois bien que l'effervescence, elle est dans tous les genres, et y compris dans la comédie, alors qu'a priori, elle est plutôt soft, la comédie, elle s'intéresse pas vraiment à la société. Là, c'est au cœur des sujets, quoi. Donc, moi, je trouve ça assez passionnant. Rabbi Jacob est un film hyper engagé.
Okay.
Et y a toute cette effervescence. Moi, j'aime beaucoup ça, et aussi le fait que la manière de voir les films se transforme dans les années 70. C'est-à-dire qu'avant, les gens vont au cinéma et là ils vont aller voir un film, c'est-à-dire qu'on va commencer à fermer les salles mono-écran et on va créer des multisalles. Alors évidemment, souvent avec un grand écran et des toutes petites salles, mais voilà, le mode de consommation du cinéma est complètement différent. C'est-à-dire que j'avais retrouvé des chiffres en 63, un film fait l'essentiel de ses recettes en un an, c'est-à-dire que la durée de vie est très très longue. En 73, c'est 4 mois.
Ah oui, donc il y a un paradigme qui change totalement au niveau du cinéma.
Voilà, parce qu'on montre plus de films. D'accord. Et ça marche, finalement, en proposant un choix devant le cinéma de 5-6 films. ça marche.
Donc une période effectivement bouillonnante, effervescente, en plein changement, en pleine transition, tu l'as dit, et sur l'écran et dans l'industrie elle-même.
C'est
ça, donc c'est ça.
C'est à la fois dans les thèmes abordés, parce que là, on est après 68, mais aussi la manière de consommer, c'est un très mauvais mot, mais de voir les films, c'est complètement différent de la décennie d'avant.
C'est vrai qu'effectivement, cette année 73, comme tu l'as dit, il se passe des choses dans le cinéma, et dans le monde aussi également, puisque 73, c'est l'année notamment de la guerre du Kippour, du premier choc pétrolier, et du coup d'État au Chili qui mettra le général Pinochet à la tête du pays jusqu'en 1990.
Comme quoi, il n'y a pas qu'aujourd'hui qu'il y a des mauvaises années. Quoi.
Voilà, exactement. 73, c'est aussi l'année de l'ouverture officielle du World Trade Center à New York, de la sortie de l'album The Dark Side of the Moon des Pink Floyd, de la première à Londres de la pièce The Rocky Horror Picture Show qui sera plus tard adaptée au cinéma, et du début de la série Les Feux de l'Amour qui en aujourd'hui à sa 49e saison et plus de 12 000 épisodes, juste pour information. Mais 73, c'est aussi et surtout du cinéma, et on est là pour ça. Et cette année-là, les spectateurs allaient voir des acteurs, surtout, et L'Arnaque avec Paul Newman et Robert Redford, Soleil Vert avec Charlton Heston, Papillon avec Dustin Hoffman et Steve McQueen, ou encore Vivre et laisser mourir, le premier James Bond avec Roger Moore, dans la peau de 007. Dans le reste du monde, on applaudissait le western Mon nom est personne, La balade sauvage, premier film de Terrence Malick, Amarcord de Fellini, La nuit américaine de François Truffaut, quand le public français faisait un triomphe aux aventures de Rabbi Jacob avec Louis de Funès. Mais cette année-là, à Hong Kong, le 20 juillet précisément, un homme, un acteur, disparaît, et pas n'importe lequel. Celui qui, par ses coups, ses gestes, son élégance, son aura et ses films, aura su bouleverser toute une industrie en incarnant un genre pratiquement à lui seul et en créant un pont entre deux mondes et deux cinémas. Cet homme, cette légende, cette icône, elle est au cœur de notre premier thème.
I said, empty your mind. Be formless, shapeless, like water. Now you put water into a cup, it becomes the cup. You put water into a bottle, it becomes the bottle. You put it in a teapot, it becomes the teapot. Now water can flow or it can crash. Be water, my friend.
Be water, my friend, cette phrase qu'on peut entendre dans le Pierre Berton Show en 1971, c'est celle de Lee Jun Fan, dit Bruce Lee, cet acteur que tout le monde connaît, en tout cas de nom, en tout cas d'aura, d'image, d'icône, on va en parler bien sûr. Et puisqu'effectivement, Bruce Lee va être au cœur de notre premier thème, puisque ce 20 juillet 1973, à Hong Kong, meurt Bruce Lee à 32 ans, d'un œdème cérébral, pardon. Cet acteur qui aura joué dans Le Frelon Vert, dans Big Boss, dans La Fureur de Vainque, dans Opération Dragon et dans Le Jeu de la Mort, s'éteint après une carrière qui aura duré de 46 à 73, avec un peu plus de 30 films, 30 projets. Donc une carrière relativement restreinte qui aura pourtant, paradoxalement, un impact phénoménal sur le cinéma, et on est là pour en discuter. Alors rapidement, avant de rentrer dans la discussion qu'on va avoir, Jérôme, pour cerner Bruce Lee, c'est d'abord un Bruce Lee, donc c'est quelqu'un qui naît à San Francisco, avant de partir très très jeune à 2 ans en Asie, à Hong Kong avec ses parents. Il va suivre comme ça des études et des coups, notamment de faire de la danse, notamment apprendre des arts martiaux, etc., etc. Puis il va faire des films à Hong Kong et en Asie, puis il va revenir effectivement aux États-Unis et il va jouer d'abord être acteur secondaire de séries télé, notamment dans Le Frelon Vert, qui va le rendre célèbre. Et après, au fur et à mesure, il va devenir célèbre, notamment en tant qu'acteur, en tant que chorégraphe, en tant qu'aussi ça c'est assez intéressant, il va être prof d'arts martiaux, ou en tout cas philosophe / prof d'arts martiaux pour beaucoup de stars d'Hollywood à l'époque. On y aura Sharon Tate, Roman Polanski, etc., etc.
Steve McQueen, et Steve McQueen, James Coburn aussi.
Voilà, il aura une
sorte de... Il va devenir ami de ça.
Donc autant sur l'écran que dans l'industrie, il va déjà être présent. Et c'est vrai que du coup, il a ses multiples casquettes, acteur, scénariste, réalisateur même, chorégraphe, danseur, même philosophe, on l'a vu avec sa citation, devient de l'eau, et icône, finalement, à sa mort. Toutes ces casquettes-là, toutes ces étiquettes-là qu'on peut donner à Bruce Lee, pour toi, c'était quoi avant tout Bruce Lee, Jérôme ?
C'est d'abord un corps, la manière de bouger sur l'écran, on n'avait jamais vu ça. Enfin, moi, j'ai souvenir de l'avoir découvert vers 9-10 ans, donc au début des années 80, en VHS René Château, comme tout le monde. Il y avait la manière de se déplacer, et maintenant, on sait aussi que c'était compliqué quand il filmait Bruce Lee, parce qu'en fait, il allait trop vite, donc il devait ralentir.
Les
la manière.
Il
y avait quand même. La caméra pouvait pas. Donc, il a dû ralentir. Les films ne sont pas extraordinaires au niveau de la narration. On va dire, bon, il a fait 30 films, mais il a fait 4 films et demi en fait.
Voilà, 4 films et demi en plus en 3 ans, c'est films emblématiques.
Les films qu'il a réalisés lui, il met son corps en avant, parce qu'évidemment il y a l'ego de Bruce Lee qui fait partie de son charisme. Voilà, on n'avait jamais vu ça, et bon, évidemment il y avait aussi le fait qu'on n'avait jamais vu un acteur asiatique en vedette à l'international, ce qui va être le cas d'Opération Dragon, c'est-à-dire que la Warner, qui est une major américaine, va miser sur un acteur asiatique.
Voilà, Opération Dragon, sortie donc en 73, donc cette année-là, ouais. Et qui est, pour mettre un peu de contexte, la première coproduction entre Hollywood, ouais, et Hong Kong, de l'histoire du cinéma. Donc c'est un film aussi emblématique et
c'est
important
ça,
pour ça.
C'est ça, Bruce Lee est à Hong Kong, le film va se tourner à Hong Kong. Ouais. Lui, il est le protégé de la Golden Harvest de Raymond Chow.
De Raymond Chow, très important, on va en reparler après.
Et donc ils vont coproduire ensemble avec la Warner le film. Il y aura même d'autres coproductions. On est vraiment dans une envie d'Asie à cette époque-là.
C'est une passerelle, quoi.
Voilà, et l'année d'après, la Hammer, le studio anglais, va coproduire avec la Shaw Brothers Les 7 Vampires d'Or avec Peter Cushing. Donc, je vous le recommande. Voilà, il y a une envie et une ouverture qui va pas durer très très longtemps, hein, parce que on se souvient qu'après, dans les années 80, il va y avoir des tentatives d'imposer Jackie Chan sur la place mondiale, ce qui n'arrivera que dans la fin des années 90, après plusieurs tentatives ratées. Mais Bruce Lee, ce qui me fascine, c'est qu'on est face à un acteur et à des films qui vont connaître un triomphe, en tout cas avoir une visibilité énorme, alors que l'acteur est déjà mort.
Oui, à sa mort, véritablement.
Big Boss et la fureur de vaincre sortent chez nous en mai et août 73. Ah oui. Donc, quelques mois avant sa mort. Mais ça ne fait pas des énormes succès. Ça peut paraître incroyable, mais c'est André Genovese, le producteur des Chabrol, que la bête meurt et le boucher, qui distribue sans un succès. Ils font 200 000 entrées dans l'année, c'est pas gigantesque.
Qui à l'époque n'est pas
vraiment... Et puis Opération Dragon sortira qu'en janvier 74 chez nous, hein, donc il y a toujours un délai très long. Le vrai succès de Bruce Lee va se faire dans les années qui suivent, quoi. Donc,
Tu es en train de dire que le mine de rien, Bruce Lee, nous on était en France, donc on était un peu on va dire détaché de l'événement, ça, ouais, on était pas à Hong Kong, ouais, à Hollywood, donc on n'avait peut-être pas encore en France.
Je suis pas sûr que la nouvelle de la mort de Bruce Lee ait eu un grand écho au mois de juillet en France.
Bien sûr.
Ça reste un acteur inconnu, en fait. Je pense qu'Opération Dragon, qui sort donc en janvier 74 mais en août 73 aux États-Unis, et qui a un énorme succès, hein, aux États-Unis, c'est un des films les plus rentables de tous les temps. À l'époque, ça a coûté 800 000 dollars et finalement ils vont en gagner 100 millions, quoi. Ouais. Donc voilà, il y a, en France, l'impact il est plus tard, quoi.
Mais alors du coup, qu'est-ce qui crée cette icône là, qu'est-ce qui crée l'icône Bruce Lee? Comment on passe d'un acteur méconnu, on va dire, en France, à quelqu'un qui, à sa mort, passe au statut d'icône? Et je reviendrai effectivement sur ce côté icône, parce que Bruce Lee, on a parlé de corps, et l'icône, c'est l'image, l'icône, c'est la représentation. Bruce Lee, c'est aussi un visuel. C'est aussi ça. Quelqu'un avec un corps, une coupe de cheveux, un regard, des mains, et cette tenue du jeu de la mort iconique qu'on a, que Tarantino reprend dans Kill Bill, en jaune et en noir. Donc il y a vraiment déjà, dans ce qu'il émane, cette dimension iconique. Comment il passe
Oui, mais c'est comme James Dean et Marilyn Monroe, quoi. On peut avoir des affiches quand on est ado de ces icônes dans notre chambre. Et puis les affiches de dessinées qu'a fait René Château, elles étaient hyper iconiques aussi. Donc en plus, elles formaient un ensemble, donc elles se ressemblaient. Et c'est vrai que le jeu de la mort... en plus,
donc le jeu de la mort est sorti en 78, donc bien plus tard après la mort de
oui,
Bruce Lee,
et puis,
c'est un film qui a été...
C'est de la bidouille, voilà. c'est une honte même cinématographique.
Un acteur qui ressemble à Bruce Lee est pris pour faire des scènes en plus, c'est ridicule.
Et on voit même des plans du cercueil ouvert de Bruce Lee, ce qui est hallucinant. Raymond Chow, qui est donc le producteur, a une démarche assez glauque, clairement.
Du coup, d'où ma question, parce que Raymond Chow, c'est quelqu'un dont on va peut-être en parler effectivement dans ce premier thème, c'est quand même quelqu'un d'assez essentiel, puisque c'est un ancien producteur de la
Shaw Brothers.
Brothers.
Ça s'écrit pas pareil. On est à la radio.
C'est H-O-W et Shaw Brothers, c'est S-H-A-W. Ouais. Il est avant dans la boîte de production de la Shaw Brothers, iconique, extrêmement historique, on va dire, en Asie. Il en a marre, il veut plus de liberté, il veut plus de liberté créative. Et du coup, il crée son studio, la Golden Harvest, et il va prendre Bruce Lee comme tête de gondole, on va dire, de ce nouveau studio-là. Et c'est lui aussi qui va, comme on l'a dit là juste à l'instant, qui va aussi, pendant qu'il est vivant et après sa mort, c'est son poulain, quoi, véritablement. Est-ce que du coup, Bruce Lee n'est pas une création de Raymond Chow aussi?
Oui, Mais il y a aussi le revers de la médaille, c'est aussi une poule aux œufs d'or, quoi. C'est-à-dire qu'il va surexploiter. Il va faire des documentaires sur Bruce Lee, quasiment l'année après ça, en 73, il y a un doc qui sort avec déjà quelques plans du jeu de la mort. Et puis il va bidouiller ce truc-là pendant 5 ans du jeu de la mort, qui est vraiment à regarder, hein, parce que c'est hallucinant. Il y a même des découpes au cutter d'une photo de Bruce Lee placée.
Ridicule, hein,
Alors évidemment, depuis, en 99-2000, on a pu voir les 40 minutes monter de ce qu'il avait
avec Kareem Abdul-Jabbar et
parce que là, le jeu de la mort en 78, ça n'a rien à voir avec ce qu'avait écrit Bruce Lee. Et d'ailleurs, dans le film, on ne voit que 10 minutes Bruce Lee, inédit. Alors que quand on a 40 minutes, on se dit, tiens, on va en prendre que 10, ça paraît
aberrant aujourd'hui.
Et puis c'est Robert Close, le réalisateur d'Opération Dragon, qui chapeaute ça. Ce qu'on peut sauver, c'est la musique de John Barry. Le jeu de la mort, elle est extraordinaire. Là, il est en pleine période James Bond.
C'est John Barry,
Et il signe un score assez très inspiré des James Bond. Mais le film est une série Z, hein, clairement. Quoi. Donc,
mais du coup, ce côté iconique de Bruce Lee, il a été fait un peu sur le dos de sa mort. C'est un peu opportuniste, du coup.
Parce qu'en plus, Raymond Chaud, le jour de sa mort, il cache des choses. Enfin, il veut cacher le fait qu'il était chez sa maîtresse donc il serait mort chez lui. Donc, il y a beaucoup de mensonges. Et puis après, tout du mystère autour de cette mort. Les triades, les machins, tout ce qu'on veut.
Donc, il est déjà dans la construction, dans l'échafaudage. Une légende au lieu de la vérité.
Il est sans scrupule, hein. Il
fantasme, quand même,
Après, il a un talent, parce qu'après, il va produire et lancer Jackie Chan dans un autre genre. Même
le
si
kung fu burlesque, un peu comique.
Même si au début, Jackie Chan est présenté comme un nouveau Bruce Lee, comme beaucoup des arts martiaux sérieux. Et c'est Jackie Chan qui, lui, a envie de faire du burlesque et rendre hommage à Buster Keaton et Belmondo, mais Raymond Chaud, exploite ça, clairement, quoi. Et puis, évidemment, il y a avoir cette exploitation par d'autres pays, en Indonésie, aux Philippines, avec des faux Bruce Lee. Ça s'est jamais vu. C'est-à-dire qu'un acteur meurt et des sosies prennent la suite. C'est-à-dire que je vois pas...
C'est terrible ce que tu as raconté, effectivement. Non, mais c'est vrai que c'est... En fait, plus on discute, et moi, je pensais que ça allait être un premier thème plutôt joyeux, parce que c'est Bruce Lee et ses films sont impressionnants. On parle de son corps et tout ça, mais c'est vrai que plus on discute, plus c'est quand même assez triste ce qu'on raconte.
Mais ce qui est fascinant, c'est que les films restent impressionnants aujourd'hui. Toutes les scènes, d'arts martiaux, avec les nunchaku... Oui. Donc, moi, je trouve ça cinématographiquement impressionnant encore aujourd'hui. Là, j'ai revu il n'y a pas longtemps les 40 minutes du jeu de la mort, parce que je ne regarde pas trop le film de 78, mais quand il se bat contre Kareem Abdul-Jabbar, c'est quand même 2m20 contre, je ne sais pas quelle était la taille de Bruce Lee, mais tout le monde paraît petit à côté de Kareem Abdul-Jabbar. Mais il y a une idée là. Kareem Abdul-Jabbar, je précise, était un champion des...
Un basketteur,
Lakers, je sais plus.
Je crois.
Et qui vient, c'est tourné en juillet 72. Hein, donc le film va être interrompu pour Opération Dragon, mais il tourne une quarantaine de minutes utiles durant l'été 72. Et Kareem Abdul-Jabbar vient à Hong Kong tourner en le cachant à sa fédération, parce que s'il se blesse, ça va poser problème. Parce qu'ils sont amis. Et Bruce Lee lui propose ça, c'est-à-dire qu'on va faire un combat David contre Goliath, quoi. Parce que voilà, il y a Bruce Lee, il y a le charisme, il y a le corps, mais c'est aussi un metteur en scène. C'est-à-dire qu'il sait comment se mettre en avant et comment mettre les arts martiaux en avant.
Comment filmer les
arts martiaux.
Tout comme le fera plus tard Jackie Chan, qui est aussi comment bien filmer les arts martiaux, parce que beaucoup de réalisateurs occidentaux loupent d'ailleurs.
On voit bien les meilleurs films de Jackie Chan, ce sont ceux qu'il a réalisés, Polystory, Miracles, Big Brother en français.
Et oui, du coup, Bruce Lee est réalisateur et scénariste aussi d'ailleurs.
Oui,
donc il a ses côtés, il a ses idées fortes. Le Colisée contre Chuck Norris, c'est aussi une idée forte.
C'est ça, et puis il veut aussi... utiliser le cinéma pour, ce qu'on disait tout à l'heure, montrer et expliquer sa philosophie de la vie. Il veut pas faire que du film d'action.
Oui, parce qu'il est le créateur notamment d'un art martial qui s'appelle le Jeet Kune Do. Et on l'a vu avec l'extrait au début, il est aussi, comme tu l'as dit, il a une philosophie à transmettre. Donc il y a ce côté, comme tu le dis, passeur aussi, professeur, cette volonté-là. Comme tu le dis, il crée mine de rien une passerelle entre l'Asie et Hollywood et l'Amérique. Et peut-être que ces films il veut que ses films parlent pour lui aussi.
Oui, puis une grande ouverture à l'Asie dans ces années-là, de toute façon. Vrai. Donc en Inde, enfin il y a des voyages, enfin tout. Voilà, plutôt les années 60 peut-être, mais enfin il y a le mouvement Flower Power, enfin et puis il y a le développement des arts martiaux
au même moment
et parce que on parle de Bruce Lee, mais à l'époque c'est là où on découvre le cinéma d'arts martiaux aussi en Europe, ce qui sera le cas en France. Beaucoup de films sont apportés pour la première fois. Alors dans les salles de quartier, on parle pas de grosses sorties, même si La Main de Fer est sortie par la Warner aux États-Unis et en France en mars 73, je crois. J'avais compté, il y avait près de 38 films d'arts martiaux sortis en France en 73.
T'avais une liste là, mais alors, effectivement, à l'époque, comme tu le disais, c'était des arts martiaux qui étaient... T'avais un filtre quand même assez raciste sur les titres de ces films-là.
Oui, parce qu'il y a évidemment « J'irai verser du Nyokman sur tes tripes »,« Il faut battre le chinois pendant qu'il est chaud », je cite, hein, évidemment, « Ça branle dans les bambous », « Karaté à mort pour une poignée de soja ». Alors, je ne sais pas si Jean Amadou qui s'occupait des titres français, mais c'est violent. Quoi.
C'est violent.
Après, dans le tas, il y avait quand même des il y a le « Crépuscule des crapules » que je vous recommande, je l'ai vu. Et en plus, c'était des films avec des bandes originales empruntées. C'est-à-dire que dans le Crépuscule des crapules, on entend les thèmes de Shaft, West Side Story.
Oui, donc c'est de la série B bricolée.
Série B, non, série
non
Z.
Mais c'est moi, je suis non, trop gentil avec ces films.
Ce sont des tout petits budgets tournés en Indonésie, aux Philippines. C'est pas, on est très loin du haut du panier. Après, dedans, il y a des bons films. Le problème, c'est que c'est noyé dans la masse de ces sous-produits qui sont très drôles à regarder aujourd'hui en VF, parce que les VF sont aussi racistes que les titres.
Donc tu dirais que ce qui explique, on va dire, l'impact populaire et culturel et cinématographique de Bruce Lee, c'est à la fois sa personnalité, qu'on en a parlé de son corps et tout ça, et en même temps il arrive au bon moment, il est là au bon moment, au bon endroit.
Ouais. Oui, et puis les films, voilà, on disait du mal de Raymond Chaud, mais il lui donne les moyens de ses ambitions. C'est-à-dire que autant les deux premiers sont de Lo Wei, les réalisateurs, mais après il peut tourner lui-même. C'est-à-dire que il devient réalisateur de ses propres films. Bon, déjà parce qu'il s'est mal entendu avec le premier réalisateur, mais Raymond Chaud lui donne cette latitude, quoi. Et bon, aussi les films ont très bien marché, les deux premiers, donc il peut faire ce qu'il veut. Mais c'est vrai que la mort de Bruce Lee, très soudaine, hein. En fait, il fait une allergie à un médicament. Enfin,
oui, à un médicament, voilà. Il prend pour calmer une douleur, tête, et il fait un œdème.
Voilà, donc en plus, il vient de tourner Opération Dragon, là, et il est très maigre. Enfin, physiquement, il n'est pas en forme, ça paraît aberrant, mais il est fragile, en fait. Et donc, il va faire une allergie. Alors, évidemment, tout ça va être monté.
Est-ce qu'on l'a assassiné, voilà. Est-ce que machin, bref, voilà. Puis, comme tout le monde fait déjà.
La mort accidentelle de son fils 20 ans plus tard, enfin bon, il y a encore des docs là-dessus.
Ça participe à la légende, véritablement.
Oui, ce mystère de.
Comme Marilyn Monroe, la barbiturique, les machins. Voilà. T'as toujours quelque chose, voilà, James Dean, mais tu parlais de James Dean et de Marilyn Monroe, c'est vraiment. Ça appartient à cette case, on va dire, du fantasme.
Oui.
Là, on est 50 ans après la mort de Bruce Lee. Toi, j'avais envie de te poser la question, qu'est-ce qui reste de Bruce Lee ? Et moi, j'ai envie de te poser la question, qu'est-ce que tu as envie de garder de toi de Bruce Lee ? La réalité, le fantasme, un film, une scène ?
Moi, c'est vrai que la scène contre Kareem Abdul-Jabbar, avec la musique de John Barry, je trouve ça impressionnant. Moi, ça m'avait excessivement impressionné enfant. Il y avait un mélange de techniques de combat utilisées entre les deux.
Fou, comme tu l'as dit, c'est fou.
C'est fou.
Le principe même.
Et puis, bon, il y a la version 78, mais en 99, on en voit beaucoup plus, quoi. Donc, on voit que Kareem Abdul-Jabbar est en fait handicapé parce qu'il voit pas dans la lumière le gène. Enfin, tout ça avait été complètement balayé dans la version de Robert Clouse. Je trouve ça assez fascinant, tous ces les niveaux des pagodes et avec différents arts martiaux en fonction de.
C'est plutôt très vidéoludique d'ailleurs.
Hein. Oui. Puisque en plus, le film va avoir Bruce Lee va avoir un énorme impact. Les créateurs de Dragon Ball vont en parler. Street Fighter, le jeu vidéo, est inspiré d'Opération Dragon. Enfin,
il y a un personnage qui est calqué sur lui dans Mortal Kombat, par exemple.
Oui, voilà. Ouais, donc, je crois même que Bruce Lee va apparaître en jeu vidéo dans sa tenue du jeu de la mort. Et puis, évidemment, on va parler. Kill Bill, c'est
d'ailleurs,
c'est
qu'est-ce que tu penses de son évocation ou de son apparition dans Once Upon a Time in Hollywood de Quentin Tarantino?
Moi, ça m'a fait beaucoup rire, mais bon, pas la fille de Bruce Lee.
Elle a été critiquée, hein, c'est vrai, effectivement, pour remettre du contexte aux auditeurs. Effectivement, dans Once Upon a Time in Hollywood, le dernier Tarantino avec Brad Pitt et DiCaprio, il y a une scène où Brad Pitt se bat avec. avec Bruce Lee, en tout cas un acteur qui...
Il se bat pas, il lui fout une raclée. Il n'y a même pas de combat, quoi. Ça s'arrête assez rapidement.
Mais du coup...
Moi, ça m'a fait beaucoup rire. Mais bon, le film est un fantasme, donc...
Oui, on est dans le fantasme.
On est plutôt, enfin moi j'ai plutôt du côté de Brad Pitt, quoi. Je me dis, oui, il va foutre une raclée, ça va être drôle, quoi. Et après, Kurt Russell, qui a... Non, j'aime beaucoup, elle est très jouissive, cette scène. Ouais. Évidemment, elle plaît pas à sa fille, mais oui, c'est pas réaliste, tout ça.
Le film est très jouissif, aussi dans le fantasme.
Il est dans le plaisir, ouais. Je trouve ça cohérent avec ce que veut raconter Tarantino de l'année 69.
Hein, c'est ça.
Donc voilà, oui, ça m'a beaucoup plu. Ouais.
Mais tu vois, comme quoi, mine de rien, on a commencé par ce fantasme qu'est Bruce Lee, on reste dans le fantasme, puis de rien, 50 ans après, on est encore dans ce fantasme de Bruce Lee, donc c'est assez fou. Voilà qui conclut parfaitement ce premier thème où on a discuté de Bruce Lee, et qui effectivement meurt ce 20 juillet 1973. Vous êtes toujours en train d'écouter Année Lumière, on est toujours avec Jérôme Ouibon, et on s'en va sans plus tarder vers le second thème de l'émission. De la musique de La Grande Bouffe de Marco Ferreri, un film avec Michel Piccoli, Marcello Mastroianni, Philippe Noiret, Andrea Ferréol, Hugo Tonazzi. Un film qui raconte l'histoire de quatre amis lassés de leur vie ennuyeuse et qui se retrouvent dans un hôtel particulier parisien pour manger, jusqu'à la débauche, jusqu'à tout, jusqu'à la mort, jusqu'à l'extrême. Bref, un film assez unique, assez particulier, qui va être au cœur de notre deuxième thème. Je l'ai revu pour l'émission, un film où il y a des scènes assez, encore un peu choquantes, enfin pas choquantes, mais en tout cas assez étonnantes, qu'on n'a pas l'habitude de voir au cinéma, des scènes de surbouffe, des scènes de vomi, de raw, de paix, de sexe bien sûr, de fellation, etc., etc. Et bien sûr, évidemment, en 73, c'est l'un des films chocs de cette année. C'est également un scandale au Festival de Cannes où il est présenté en 1973. Parmi les réactions fameuses au film, on a Ingrid Bergman, qui est alors la présidente du jury, qui dit que La Grande Bouffe est l'un des films les plus sordides et vulgaires du festival.
Et l'autre, c'est La Maman et la Putain. C'est une grande année.
Voilà, c'est La Maman et la Putain et La Grande Bouffe sont les films les plus sordides. Désolé, Ingrid. D'autres disent qu'il faut avoir honte aux producteurs, aux acteurs et à la France même. Et bref, et de l'autre côté, pour répondre à ces détracteurs, Philippe Noiret, lui, a une citation très belle. Il dit « Nous tendions un miroir aux gens et ils n'ont pas aimé se voir dedans. C'est révélateur d'une grande connerie. » Donc voilà, c'est assez drôle. Et donc, c'est un film à charge sur contre les excès absurdes de la bourgeoisie, du capitalisme, du consumérisme, etc., etc. Et on va dire que ce choc critique va, mine de rien, avoir un succès en salle, puisque 2,4 millions de spectateurs vont se rendre en salle pour voir La Grande Bouffe, ce film est assez particulier. Tu voulais toi partager une autre citation de Philippe Noiret sur le film. Tu m'as dit que c'était assez drôle.
Parce qu'en fait, ce que Noiret, évidemment, il s'attend à un peu de scandale, mais je crois pas qu'il y ait une volonté. En tout cas, Noiret pense pas qu'il y ait une volonté de. On va s'asseoir, on va écrire un film à scandale, quoi. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'ils veulent dénoncer les dérives de la consommation et de ces gens qui mangent pour qui vont en mourir. Ouais. Moi, j'aime beaucoup ce que dit Ingrid Bergman, mais il y a aussi une phrase très connue qu'on entend à la sortie de la salle à Cannes. Il y a une dame qui dit et ça gagne du pognon, ça, sur le dos du bon prolo. Beaucoup de cette critique, ça, je trouve que ça fait mouche sur cette dame n'a évidemment pas compris le propos du film. Ce que j'aime beaucoup, c'est que dans les citations que tu disais tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas de critique du film, en fait. C'est une honte, ces gens devraient avoir honte de se présenter, ouais, tout ça. Et Noiret réagissait sur l'accusation de vulgarité du film. Pour lui, il n'y a pas une once de vulgarité dans le film, alors que nous y baignons quotidiennement dans notre vie. Pour moi, la vulgarité, c'est Guy Lux, c'est le couple Sheila Ringo partant en voyage de noces et sortant en même temps un nouveau disque. C'est ça la vulgarité, c'est pas La Grande Bouffe. Les gens qui critiquent ce film ne voient pas l'essentiel, qui est une sorte de cri d'alarme, de désespoir, en même temps qu'une grande tendresse pour les personnages.
Elle est belle, cette citation.
Ressens en voyant le film. Je trouve le film très mélancolique, très drôle aussi. C'est-à-dire qu'on parle de scandale et de gens qui s'empiffrent et tout ça, mais moi, je filme, le film est très, très drôle, quoi. Il y a des scènes très drôles. Et ce qui m'avait fasciné la première fois que je l'avais vu, c'est que les personnages ont les noms des comédiens, qui s'appellent Marcello, ouais. Philippe, même Andrea
Ferrer. Cette frontière troublée entre la...
Alors, peut-être que ça a aussi joué, parce qu'ils se sont pris plein la gueule, Noiret, Piccoli, à Cannes. Parce que peut-être qu'on les a associés, comment Philippe Noiret, qui est le gentleman farmer, enfin, il n'est pas encore une énorme star en 73, ouais. mais Piccoli l'est, parce qu'il est dans le film de Sauté. Comment il a pu jouer dans ce film aussi grossier, vulgaire ?
Il y avait une critique qui disait que c'était aussi un suicide d'acteur. C'était bien dommage de voir des acteurs suicider leur carrière comme ça, alors que c'est drôle quand on sait que la carrière que, par exemple, Noiret a eu après...
Oui. Voilà. Et ça montre aussi les prises de risque de ces comédiens. Quoi. Parce que je crois que l'origine du film, c'est les dîners que faisait... Jean-Pierre Assam, qui est le producteur du film, on pourrait passer des heures à parler de la carrière de Jean-Pierre Assam, qui est le producteur de Jean-Yann. Il faisait des dîners avec les frères Sard, Philippe, le musicien, et Alain Sard, qui est en 73 et pas encore...
Donc Philippe Sard qui a fait la musique qu'on entendait au début. Donc,
donc les frères Sard se parlaient encore à l'époque, ce qui n'a pas duré.
Du coup, l'origine du film, c'est ça, c'est cette discussion de dire on fait nous-mêmes des repas un peu extrêmes. On est vraiment parfois dans de l'absurdité de bouffe et d'extrêmes et d'excès. Il faut qu'on parle de ça.
Voilà, et Ferreri, qui est pas une provoque près, se dit il y a un film à faire. Donc,
Est-ce qu'il n'est pas un peu opportuniste ce film-là ? C'est volontairement une question un petit peu piquante parce que tu y as un peu répondu. Il est érotique, il fait effectivement le scandale. Donc on sait que le scandale parfois peut attirer. Marc Ferreri est fameux pour ça. Il n'est pas à son premier coup d'essai, donc il sait aussi que les gens l'attendent un peu au tournant. On sait qu'on va avoir un Ferreri, qu'on va avoir un film un peu. Voilà. Donc il y a aussi cette odeur de. Pas de souffre, mais...
Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'il y a des envies de faire des films... parce que La Grande Bouffe est une comédie, quand même, je trouve, au départ, mais avec quelque chose à dire, quoi.
Une comédie de mœurs, ouais.
Ouais, et, mais bon, là, dans ces années-là, c'est tous les ans. C'est-à-dire que l'année d'avant, il y a Dernier Tango à Paris, l'année d'après, il y aura Les Valseuses,
Calmos, effectivement.
Voilà, Calmos, qui est une pure provoque, qui est au départ... film pour l'année 75, l'année de la femme, et Bertrand Blier veut sortir ça l'année de la femme. Bon, le film aura un peu de retard et sortira qu'une année, un an après, mais
Calmos, on vous invite d'ailleurs à écouter l'année Lumière avec Philippe Gage, où on parle de l'année 76 et où on parle effectivement de Rochefort et de Calmos. C'est marrant parce que tu disais effectivement que ce film-là dénonçait une sorte de vulgarité, mais lui n'était pas vulgaire. Ça me fait penser, alors j'ai plus le titre du film, j'ai juste la scène où je vois Jean-Yann qui dit à un président de radio...
Tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, pardon.
Voilà, c'est ça. Ouais. Tout le monde il est beau et tout le monde il est gentil.
Ouais, c'est ça, c'est sûrement de la radio ou...
Il dit ça en fait au producteur. Ouais. Ce qui est vulgaire, c'est...
C'est la publicité, c'est... Parce que c'est produit par Assam, qui était...
Comme quoi
qui avait envie de faire bouger les lignes dans la production, il va y arriver d'ailleurs. Avec Yann, ils ont envie de faire ça. Et on parlait de Calmos, qui a quand même été écrit au départ pour Jean-Yann et Jean-Paul Belmondo. Jean-Yann était partant, m'avait dit Blier que j'avais rencontré, et Belmondo a fait marche arrière. Mais on est dans les Galettes de Pont-Aven, qui est souvent vendu comme un film vulgaire. En fait, non, c'est sur un type qui perd pied dans la société et qui finit isolé. Alors évidemment, il y a la gouaille de Joël Seria dans les dialogues, mais c'est un film
mélange.
Il y a une tendresse dans ce film. Moi, j'aime beaucoup ces films-là qui. Voilà, aujourd'hui, c'est vrai que quand on parle de La Grande Bouffe, on parle du scandale, mais le film.
Il raconte une époque aussi.
Il raconte une époque. Et les acteurs sont assez formidables. Enfin, et puis, on parlait de Noiret qui prend des risques, mais Mastroianni aussi, qui est aussi Italian Lover. Enfin.
Bien sûr.
On en est très loin là, donc moi j'adore le film, j'adore le film.
D'ailleurs oui, donc du coup pour revenir effectivement à cette époque-là, on a parlé de Calmos, on a raconté un peu ce qu'il y avait avant après, et on se rend compte que beaucoup de films effectivement, mine de rien, font un peu comme La Grande Bouffe, ils questionnent, ils parlent de cette vulgarité de la société qu'on montre dans les films, et qu'on l'a dit, c'est La Grande Bouffe est le produit d'une époque où... Dans les années 70, en tout cas fin 60, début 70, tu as une sorte de grand mouvement de libération, on va dire, de la parole, des mœurs et de plein de choses. Et ça tombe entre guillemets bien, puisque c'est aussi la suite de notre thème, c'est ça va être aussi ce qu'on appelle l'âge d'or d'un cinéma particulier, qui est le cinéma érotique. C'est-à-dire que en 73, pour vous cerner ça, enfin, on a des films qui sortent qui s'appellent Les Contes d'Imoreau, Les Anges Pervers, Libre Jouissance, Anita, Sexe et Furie. En 72, on a eu Gorge Profonde. En 74, on aura Emmanuel. Donc, on est dans la fin 60 et début 70, dans une époque où chaque année, on a des films qui sortent, qui testent, on va dire, les limites des mœurs et de la société, et qui sont en plus des gros succès populaires et érotiques. Emmanuel, rappelons-le, fait 9 millions de spectateurs. Histoire d'eau, qui sort en 75, fait 3,5 millions. Les Contes d'Imoreau, que j'ai cité avant, fait 1,4 million. Donc, mine de rien, c'est des scores que les films d'aujourd'hui aimeraient bien faire. Et là, ce sont des films érotiques. Donc, les gens vont voir ces films en masse.
Mais même Exhibition de Jean-François Davy fait 600 000 entrées à Paris. Et là, il y a des scènes porno.
Ouais.
Donc, mais tout ça, et en fait, prend son origine. Moi, j'avais retrouvé. En fait, en 69, on est sous Pompidou hein, à l'époque, ouais. Et Chaban Delmas, qui est le Premier ministre, lance un projet de ce qu'on appelle la nouvelle société. Donc, on va changer la vie en France, quoi. Mmh. Et l'un des axes, c'est la suppression de la censure, mais quasiment toute la censure. Et il y a un ministre des Affaires culturelles qui s'appelle Jacques Duhamel, qui annonce en 71 qu'on va libéraliser la censure. Donc, tout va être possible. Alors, à l'époque, c'est encore de l'érotique soft, enfin de l'érotique. Ouais. Parce qu'en plus, il y a beaucoup de confusion à cette époque-là.
Entre érotisme, pornographie.
Porno, quand les gens parlent de porno, en fait, ce sont des films érotiques où on voit rien. Mais à l'époque, il y a beaucoup de confusion. Mais avant Emmanuel, il n'y a pas de porno qui sortent en France.
D'ailleurs, rappelons-le, comme tu le disais, avant, à cette époque-là, il n'y a pas encore le classement X.
Non.
Ce classement X n'existe pas, il n'arrivera que fin 75. Donc
c'est
il y a
ça,
vraiment,
c'est
effectivement,
par,
une période
en fait, là, et puis là, on est passé sous Giscard qui va aussi libérer Emmanuel, parce que Emmanuel avait été bloqué quand même quelques temps, mais l'arrivée de Giscard, et en fait là il va y avoir des déferlements de porno, et sur, je sais plus les chiffres, mais c'est genre en gros sur le box-office, les entrées en salle en 75, il y a 30%, c'est des pornos.
Ouais.
Donc c'est quand même énorme. C'est-à-dire que,
un tiers. Quoi. Non, mais c'est fou.
Non, mais,
imaginez maintenant. Imaginez
parce qu'ils sortent 200 films par an. Quoi. Donc il y a une industrie. Et donc là, ça va trop vite par rapport à la société française.
Et ça prend sa source dans ce Chaban Delmas, dans 69, dans cette année précise
où
tu as une libération.
Et puis une continuation avec Giscard, quoi, clairement, parce qu'il y a une volonté d'abaisser l'âge de la majorité. Il y a la pilule, il va y avoir la loi sur l'avortement. La société française évolue très vite, même si ça ne se fait pas facilement, mais elle évolue beaucoup. Et là, le porno, là, c'est trop. Là. Donc, ils vont faire une loi en 75 qui va créer le X, et on va limiter, on va limiter la distribution de ces films, et on va tuer le porno français. Et
puis, voilà,
de toute façon, le porno étranger n'avait pas droit d'arriver
en France.
Des quotas,
oui, parce que du coup le classement X passe sous l'égide, on va dire, de la commission de classification du CNC, qui du coup maintenant va voir les films et va dire il y a trop de nudité, il y a trop de violence, etc., etc. Il va poser un classement X. Mais c'est vrai que c'est marrant, parce qu'en préparant l'émission, je faisais la liste des films pertinents de cette année-là, et effectivement tu vois une quantité assez phénoménale de films, on l'a dit, qui flirtent, qui gomment, qui brouillent cette frontière entre érotisme et porno, et parfois ça se joue à une scène, ça se joue à... Mais il y a encore une fois ce côté de souffre, il faut aller cette frontière qui est brouillée, et même des grands réalisateurs jouent avec cet érotisme là En 73, il y a Breezy de Clint Eastwood qui joue aussi sur cette question des mœurs, qui raconte du coup l'histoire d'amour, on va dire, entre une jeune fille de 25 ans et William Holden, qui a lui 60 ans. Même dans Ne te retourne pas de Nicolas Roeg, t'as quand même une scène de sexe entre Julie Christie et Donna Sutherland, qui est fameuse. Donc il y a toujours dans ces films-là, à cette époque-là, si vous jetez un œil à cette période-là, il y a toujours des scènes un petit peu particulières, un peu provocantes, ou en tout cas qui jouent sur cette frontière entre érotisme. Mais c'était pas étonnant de voir des acteurs nus, on va dire, même célèbres, nus dans des films populaires.
En 73, il y a Traitement de choc qui sort, et qui est donc un film avec Delon et Girardot. Le film est est passionnant, mais il est aussi célèbre parce qu'on voit Alain Delon nu, full frontal, en train de courir sur la plage.
C'est quand même fou ça. Une icône du, du cinéma français.
C'est sensation à la sortie. Annie Girardot aussi est nue dans une scène sur la plage. Donc voilà, la nudité est partout. Et c'est vrai que le Dernier Tango à Paris va inspirer les valseuses.
Enfin, avec Marlon Brando.
C'est parce qu'il y a eu le Dernier Tango que Yves Rousset-Rouart se décide à faire un film. Lui, il est producteur de publicité à l'époque. Il veut se lancer dans le long métrage. Il dit on va faire un truc aussi classe, mais il y a cette volonté là de faire des films de prestige, en tout cas qu'on peut aller voir sans
interaction ou en tout cas.
Mais le levée de bouclier va être énorme. Hein. On parlait de François Chalet qui va humilier et insulter tous ceux qui sont dans le porno, quoi. Donc,
tu dirais que cette période-là, 68-75, c'est la période la plus libérée du cinéma français.
Je suis moins au courant de ce qui se fait depuis ces dernières années. C'est toujours le problème, c'est que quand on se concentre sur une décennie, ou en tout cas le patrimoine, j'ai l'impression qu'on a moins de temps pour
regarder
donc,
le reste.
Donc je pourrais pas m'avancer. Et puis le truc, c'était mieux avant. Je suis pas du tout dans ce trip. Il y a une liberté. Parce que quand Calmos est produit par Fechner, qui est quand même le producteur des Charlots, se dit on va faire ça avec beaucoup d'argent.
Oui.
Je ne suis pas sûr que ce soit possible aujourd'hui au niveau des budgets, en fait. Mais oui, il y a une liberté de ton.
Ça m'a fait penser à la période pré-code. C'est-à-dire que c'est à ce côté-là. Donc la période pré-code, pour les auditeurs, c'est cette période entre 1929 et 1934 aux États-Unis où, du coup, effectivement, c'est une période où tu as plus de sexualité, plus de violence. Parce que du coup, c'est juste avant le code Hays qui va venir mettre une chape de plomb sur le cinéma américain. Et du coup, le cinéma se permet plein de choses, et notamment de parler de thèmes qui, de mœurs véritablement, et de thèmes de société. D'ailleurs, un petit salut à Renan Crowe, avec lequel on en a parlé dans L'année Lumière sur 1927. Mais du coup, moi, c'est marrant quand on parle de cette période-là, parce que ça revient à une idée que j'aime beaucoup, qui est cette idée de cinéma organique, cette idée de cinéma en contact avec la société, de cinéma qui a un jeu de discussion, une discussion ouverte, parfois effectivement, comme on l'a vu au début avec La Grande Bouffe, une discussion qui est houleuse, mais c'est un cinéma qui, d'une année sur l'autre, parfois d'un mois sur l'autre, discute vraiment ardemment avec la société dans laquelle il évolue. Ouais, et c'est passionnant.
Il est hyper réactif, je trouve, ce cinéma-là, voilà. Par rapport aux mœurs qui évolue très vite, quoi. Donc, moi, ça me fascine. Et on parlait de cette ouverture du. Enfin, et puis, sortie du ghetto de ces films érotiques. Il y a eu des manifs quand même pour défendre, quand il y a eu cette volonté de faire une loi sur de sens de classement X. Catherine Deneuve a pris la parole, Belmondo aussi. Il y a eu une manif sur les Champs-Élysées avec Patrick Devers. Ça paraît hallucinant aujourd'hui, mais Deneuve, elle le dit, je n'aime pas le cinéma porno, mais c'est un mode d'expression. Donc il faut défendre ça et pas censurer ça. Voilà, c'est une période que j'aime beaucoup parce que la société se questionne et surtout elle avance, en fait. Alors évidemment, il y a des choses qui n'ont pas toujours été géniales. Enfin, il faut pas encenser les choses, quoi. Mais c'est hyper intéressant. Juste, si on peut finir sur La Grande Bouffe.
Vas-y.
C'est un film aussi important parce que c'est aussi un réalisateur italien. Et je trouve très intéressant comment le cinéma italien infuse le cinéma français à l'époque dans la comédie. Mastroianni est la même année dans Salut l'artiste d'Yves Robert, que j'aime beaucoup, avec Jean Rochefort. En 75, il y avait Mes chers amis. Donc il y a un film italien qui va infuser Un éléphant ça trompe énormément. Cette espèce de comédie douce amère sur Nous sommes tant aimés. Moi j'aime beaucoup
la frontière transalpine.
Oui, ça communique.
Et
on sait bien que Yves Robert et Dabadi, quand ils voient mes chers amis, se disent on peut faire ça aussi, quoi. On peut peut-être faire ça aussi. C'est pas copié, mais c'est inspiré. Et parce qu'il y avait quand même, j'aime beaucoup Claude Zidi, donc c'est un cinéma de gag visuel avec les Charlots. Il y a une évolution de la comédie française qui me semble assez intéressant. Pierre Richard sera plutôt dans la mouvance de Tati. Puis c'est une période où De Funès est assez peu présent, en fait, dans les années 70, suite à ses problèmes de santé. Donc ça ouvre la place, ça ouvre un champ d'action à des gens comme Pierre Richard, comme les Charlots, évidemment, qui sont contre, anti-système aussi, hein, ils ne veulent pas faire un service militaire, tous ces trucs-là. Et à la fin de la décennie, on a le Splendide qui arrive. C'est une décennie hyper intéressante sur la comédie, je trouve, voilà, c'est une obsession.
Ouais. C'est une magnifique obsession et c'est une magnifique façon, effectivement, de conclure ce second thème sur la grande bouffe, on en a parlé, sur l'érotisme aussi, cet âge d'or de l'érotisme en 73 et un petit peu autour, un peu avant, après, un peu après. Voilà qui conclut parfaitement ce second thème de notre émission. On va sans plus tarder aller vers le troisième thème de cette année 1973. Magnifique musique, et ben justement elle est bien caractérisée puisque c'est la musique du film Le Magnifique de Philippe de Broca avec Jean-Paul Belmondo, Jacqueline Bisset, qui va être au cœur de notre troisième thème, et parce que notre troisième thème va se focaliser bien sûr sur cet acteur formidable, phénoménal, hors norme, unique, qu'est Jean-Paul Belmondo. 60 ans de carrière, plus de 90 films, des films comme Le Doulos, Pierrot le Fou, Le Cerveau, L'As des As, Le Professionnel, Itinéraire d'un enfant gâté, Un singe en hiver, etc., etc. C'est 160 millions d'entrées en France, c'est-à-dire une moyenne de plus de 2 millions de spectateurs par film, donc ce qui est effectivement non négligeable. Et en 73, Belmondo tourne donc, sort donc, pardon, Le Magnifique de Philippe de Broca, L'Héritier de la Bro, qui vont respectivement faire 2,8 et 2 millions de spectateurs, donc des très jolis scores aussi.
Ouais, c'est pas des
triomphes,
mais parce que ces triomphes vont venir plutôt après, au début des années 80, là, ça, le marginal, le professionnel, mais oui, et ce sont deux de ses meilleurs films, je trouve.
Bien sûr. Mais ouais. C'est vrai qu'une fois qu'on a dit ça, on a parlé de tout ça, donc bien sûr, Jean-Paul Belmondo est décédé le 6 septembre dernier à 88 ans. Il a même droit effectivement à un hommage national. Quand on a préparé l'émission, Jérôme, tu me disais effectivement. C'est peut-être le premier thème qui est venu assez naturellement. C'est peut-être peut-être l'étincelle qui t'a donné envie de parler ces années 73. Qu'est-ce qui te fascine, toi, chez Jean-Paul Belmondo ?
Son autodérision, à bon escient, dans Le Magnifique. Alors que je suis moins client aujourd'hui des films de Bébel, on va dire, de la fin des années 70 et du début des années 80. Alors qu'enfant, j'adorais ça, parce qu'il pouvait tout se permettre, c'était le héros, toc toc badaboum. C'est vrai que je suis moins client aujourd'hui, alors que je trouve que dans Le Magnifique, en plus, en ce moment, je termine un documentaire sur Philippe Broca, donc Le Magnifique qui est au cœur de ce documentaire. Et leur amitié, en fait, c'est-à-dire que Philippe de Broca et Belmondo vont tourner plusieurs films ensemble, L'Homme de Rio,
6 films, il me semble,
Cartouche, alors,
L'Incorrigible, Amazon, oui, Les Tribulations d'un Chinois en Chine.
Amazon, ça n'existe pas, ça n'a jamais été tourné. C'est comme le 4e Indiana Jones, ça n'existe pas. Mais c'est vrai que, et c'est vrai que c'est cette année-là,
l'autodérision, quoi.
Oui, parce que j'avais rencontré Philippe de Broca en 2000, je crois, et il m'avait dit à l'époque, je pouvais proposé à Jean-Paul n'importe quel film, il m'aurait dit oui. Ils ont tous les deux 40 ans, ils ont le même âge, et ils vont le fêter avec Perte des Fracas au Mexique. Et je trouve que Belmondo ridiculise l'image qui d'homme viril dans Le Magnifique, quoi. Bob Sinclair pourrait être le type viril que Belmondo, enfin.
Ça raconte quoi, Le Magnifique, pour ceux qui l'auraient pas vu?
Alors,
d'ailleurs,
Le Magnifique, c'est un peu compliqué. Enfin, c'est inspiré de Walter Mitty, clairement. Enfin, c'est l'histoire de Bob Sinclair, qui est agent secret, et qui se bat contre les méchants communistes avec Tatiana au Mexique. Et en fait, tout ça, le film démarre comme ça, comme un James Bond. Légèrement parodique, mais très
comme
légèrement.
Comme un OSS 117,
un peu moins. Et en fait, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, on se rend compte qu'en fait, tout ça est dans l'imagination de François Merlin, également joué par Belmondo, qui habite Paris sous la pluie et qui écrit ses romans de gare pour vivre, et qui est amoureux de sa voisine de palier qui s'appelle Christine, qui est aussi jouée par Jacqueline Bisset. Voilà, donc il y a deux univers qui se côtoient.
La réalité, le fantasme aussi.
La réalité, le fantasme, et le film est fascinant parce que, évidemment, Bob Sinclair est hilarant et de plus en plus idiot et ringard au fur et à mesure du film. Alors qu'au départ, on est plutôt, on a envie d'être Bob Sinclair, quoi, parce qu'on a envie d'être James Bond, quoi. Et pas du tout François Merlin avec ses vieilles pantoufles et ses problèmes de tuyauterie et d'électricité dans sa salle de bain. Et ça va s'inverser, en fait.
Oui, parce qu'en fait, ce qu'il écrit, Merlin... En fait, ce qui est drôle, c'est qu'effectivement, on a Belmondo qui écrit sur sa machine ce qui se passe dans les aventures de Bob Sinclair. Et du coup, parfois, il a envie de ridiculiser Bob Sinclair.
C'est ça,
et
c'est il écrit des choses horribles. Quand il a quelque chose qui l'embête dans la réalité, il transpose ça et puis il ridiculise. Il veut se débarrasser, il veut tuer Bob Sinclair. Et Christine, donc Jacqueline Bisset, veut écrire une thèse sur ses romans de gare. Alors que voilà, François Merlin est amoureux de Christine. Alors je spoil, mais il va réussir à conquérir parce que elle fantasme au départ sur Bob Sinclair, mais pas vraiment en fait. Elle préfère un type normal. Et c'est la victoire de la réalité sur le fantasme. C'est fascinant parce que le rêve et la fantaisie sont au cœur du cinéma de Broca en fait. Mais là il fait l'inverse en fait. Il montre que la réalité ça peut être très beau et qu'on peut aimer sa voisine de palier avec ses problèmes de voiture. Il est bloqué un moment dans les embouteillages, il regarde les gens il pleut, il regarde les gens dans le bus à côté, mais c'est fascinant quoi.
C'est très très drôle
et le problème avec la capote de sa voiture, il a la même voiture que Colombo, donc il a une Peugeot 403 là, et c'est très drôle, toutes les merdes qui peuvent nous arriver dans la réalité, et finalement il va en sortir grandi quoi. Donc déjà parce que ça va l'épanouir, c'est un vieux garçon, je trouve que il se moque de ce côté viril en Bob Sinclair, mais en étant François Merlin avec son vieux mégot et ses pantoufles, il se moque aussi de ça, quoi. Donc
t'as un peu les deux facettes d'un Belmondo.
Je trouve un film très riche dans l'interprétation de Belmondo, quoi.
Justement, Belmondo, c'est un acteur. Donc on l'a dit, il nous a quitté l'année dernière, il y a quelques mois. J'ai l'impression effectivement que forcément c'est un acteur iconique, forcément c'est un acteur qui est dans l'imaginaire de beaucoup de personnes. Comment tu raconterais Belmondo à une jeune génération?
Moi, je pense, alors j'étais pas là dans les années 60, avec À bout de souffle, mais il amène une manière de jouer qui est totalement originale, en fait. Donc, il y a une décontraction. Bon, en plus, d'un bout de souffle, il s'adresse à la caméra, donc c'est l'apport de Godard. Mais ouais, il y a une décontraction et souvent, on l'a considéré comme jugement foutiste, mais en fait, c'est pas ça du tout, quoi. C'est-à-dire qu'il est pas...
Il est dans l'autodérision, finalement.
Non, parce qu'il est très détendu sur les plateaux, mais il est à fond dès que ça commence à tourner. Donc parfois, on lui a reproché de faire les trucs un peu par-dessus la jambe. Mais c'est vrai que Patrice Lecomte m'avait dit un truc... qui m'avait intéressé, c'est que sur Peur sur la vie, là, par exemple, il est très goguenard, quoi. Il a toujours des trucs vraiment un peu désabusés. Bon, en plus, il a toujours été soutenu par des très bons dialogues. Donc, déjà, il y a une présence, quoi. Mais finalement, il s'en fout. C'est ça qui est bien, quoi. C'est pas important. Et c'est pour ça qu'il va jouer un alcoolique face à Jean Gabin. Enfin, il y a une curiosité au début de sa carrière que je trouve assez fascinant, quoi. Donc, et il y a un côté proche du public, ce que peut pas faire Delon, par exemple. J'adore Delon. Hein.
Qui met une distance, naturelle avec le public.
Alors qu'en fait, il y a un rapprochement naturel entre Belmondo et le public.
D'ailleurs, ce qui est marrant, mais on va discuter plus tard dans la suite du thème, mais Belmondo, c'est Bébel.
Oui,
alors
pas
qu'Alain
tout de
Delon,
suite.
C'est Monsieur Delon. Il a été moqué parce qu'il parlait de lui à la troisième personne.
Oui,
aussi.
Oui.
Il y avait ce côté, cette distance, effectivement, que t'as pas avec Belmondo. Belmondo, il a quand même, on lui donne quand même un surnom véritablement.
Oui, c'est ça. Après Delon, si on reste dans les années 70, moi j'avais calculé, il joue dans 30 films. Sur 10 ans. Parce que Trintignant, pareil. C'est-à-dire que c'est des stacanovistes. Ouais. Alors que Belmondo fait 1-2 films par an au début. Et puis après 75 et Peur sur la vie, ça va être un par an.
Le Magnifique, est-ce que Le Magnifique est un film pivot ou 73 est une année pivot pour lui?
Pas tout à fait. On dit que l'année pivot, c'est 74, c'est Stavisky, c'est l'échec, l'échec critique de Stavisky.
Un film d'auteur, véritablement.
Un film d'auteur d'Alain René, produit par Belmondo, parce que Belmondo est devenu producteur, d'ailleurs, sur Le Magnifique, il est déjà producteur. Mais Delon l'était déjà avant, en fait. Parce qu'en fait, il touche tellement d'argent qu'on ne peut plus les payer, en fait. Donc il faut qu'il soit producteur pour que les films se montent. Parce que sinon, on leur donne des cachets trop importants. Parce que voilà, Belmondo est à l'époque avec De Funès l'acteur le mieux payé d'Europe. On peut pas dire même visiblement mondial, même si aux États-Unis il est l'inconnu. Mais en tout cas, les cachets sont suffisants pour générer ça. Donc en Allemagne, Belmondo est resté une star, même encore aujourd'hui.
Tu dirais que c'est Stavisky qui le...
Oui, c'est Stavisky. C'est-à-dire que Belmondo décide de produire René, qui n'a pas tourné depuis plusieurs années. Et le film est très mal accueilli à Cannes et n'est pas un énorme succès non plus. Donc, et comme l'année d'après, il fait Peur sur la ville, qui va être un énorme carton avec Verneuil. Peur sur la ville est le début de Bébel, en fait.
C'est quoi Bébel?
C'est la gouaille, c'est Belmondo qui...
Cabotine,
enfin, si on parle de Joyeux Spack, oui, cabotine, oui. Mais pas tout le temps. Enfin, donc, dans le marginal, ça cabotine déjà aussi pas mal. Cabotine pas dans le professionnel, par exemple.
Mais c'est le Belmondo cascadeur, c'est le Belmondo gouailleur, c'est le Belmondo...
Oui, mais il y a un vrai plaisir.
Bien sûr. Donc il fait le choix, véritablement, en 74-75, de se dire, effectivement, je vais partir sur un cinéma plus populaire. Lui qui a été tout le temps entre le cinéma d'auteur, le cinéma populaire, entre À bout de souffle et Le Magnifique.
Je trouve qu'il y a un abandon du cinéma, en fait, à partir d'un moment de sa part. Il fait du cinéma pour s'amuser, ce qui est respectable, de problème. Hein. Mais je trouve que Delon, dans ces années-là, a des prises de risque beaucoup plus importantes. Quoi.
Et
il fait Monsieur Klein, il tourne Attention les enfants, regarde, où il a un second rôle. Il y a une vraie prise de risque. Et je sais qu'à chaque fois qu'on a entendu parler de projets intéressants avec Belmondo, je sais qu'Alain Corneau l'a approché. Tavernier voulait faire les Mousquetaires avec lui et ses trois amis, Rochefort, Marielle et Noiret. Oui, c'est ça. Et à chaque fois, ça n'a pas pu se faire. On parlait de Calmos tout à l'heure. Ça aurait été génial, Jean-Yann Belmondo. Quoi. Mais à chaque fois, son agent, qui est Les Bovici, va dire non, en fait. Enfin, en tout cas, va. Et à l'inverse, on va monter des projets comme Les Morphalous, qui est donc la triplette Verneuil, Audiard, Belmondo. C'est irregardable, quoi. Donc, voilà, il y a une absence. Alors, évidemment, il va reprendre des risques avec Itinéraire d'un enfant gâté en 88, mais aussi parce que les films précédents n'ont pas marché, et aussi parce qu'il a retrouvé du plaisir de jouer au théâtre. Moi, je ne sauve pas grand-chose des années 80, quoi, clairement. Donc, j'ai l'impression, voilà, que y a beaucoup de plaisir. Il s'amuse beaucoup, et il fait les cascades, et ça fait plaisir aux gens. C'est-à-dire qu'on est dans des 4-5 millions d'entrées.
Donc les gens sont... On l'a vu, 160 millions d'entrées France dans sa carrière, c'est énorme.
Mais je crois qu'il fait, au début des années 80, avec L'As des As, Le Marginal et Le Professionnel, il fait 3-4 millions à chaque fois, là, donc de suite. Donc à l'époque, c'est des rouleaux compresseurs. C'est pas possible, quoi. Donc tout fonctionne. La critique, peu importe la critique,
on montre plus les films
à la presse. Ça sert à rien de toute façon, parce que les gens vont voir. On a un peu l'impression que c'est vendu comme un paquet de lessive, quoi. Donc moi, j'adore.
Rappelons quand même que t'as fait un livre qui s'appelle Belmondo le Magnifique.
Qui était sur le tournage du Magnifique. Donc
t'as fait un documentaire qui s'appelle Belmondo, le goût du risque.
Mais on évoquait ça. C'est-à-dire que cette espèce de, à un moment, ça tourne à vide avec des trucs comme le Joyeux Spack, le Solitaire. Voilà, c'est pas très très intéressant,
mais tout ça parce qu'il préférait entre guillemets s'amuser plutôt
et puis je pense qu'il était conseillé dans ce sens là quoi, donc et puis les films marchaient, donc c'est difficile de sortir d'une spirale comme ça de succès en se disant la remise en question est difficile quand on fait 4 millions d'entrées à chaque film.
Donc Belmondo, il a été un peu du coup aussi prisonnier de ce succès là persona qui était Bébel,
et c'est dommage qu'on ait quoi. Moi, j'aime beaucoup peut-être de Clapiche, oui. J'aurais aimé voir Belmondo dans d'autres films comme ça. C'est-à-dire que voilà, il est sur une troisième carrière âgé. Il y a une curiosité de sa part, là, pour le coup. Quand il fait Clapiche, c'est une vraie prise de risque, quoi. Il joue le fils de Romain Duris, qui est un film de science-fiction.
Paris sous le sable et tout.
Voilà, et j'adore ces prises de risque-là. Je regrette qu'il n'y en ait pas eu plus, mais moi j'adore Le Voleur de Louis Malle, il est extraordinaire. L'Héritier qui est sorti en 73, qui est un film passionnant parce que c'est la réponse de Belmondo à Steve McQueen dans l'affaire Thomas Crown. C'est-à-dire qu'ils sont habillés en costume, c'est-à-dire qu'on a elle n'a pas l'habitude de voir Belmondo en costume. Et ce qui était le cas aussi, Steve McQueen, il y avait la prise de risque. Et visiblement, ils avaient Jeff Domenech qui était un ami de Belmondo, qui avait raconté ça. Il se répondait par film. C'est-à-dire que je crois qu'il a un bon burst dans le Marginal, je crois, Belmondo. Et Steve McQueen a quasiment le même bon burst dans Le Chasseur. Enfin,
il y avait des réponses cinématographiques entre Steve McQueen et Jean-Paul Belmondo.
Voilà,
c'est
par tenue.
Par film interposé.
C'est drôle. Mais c'est vrai qu'il y a c'est le même genre de film, il faisait le même genre de film, donc oui, je trouve ça intéressant.
Est-ce que pour clore ce troisième et dernier thème de l'émission,
j'ai été dur avec Belmondo,
bah, c'est pas grave, on l'aime,
mais je l'aime.
Est-ce que tu aurais, pour conclure très rapidement ce troisième thème, un film que tu aimerais conseiller, recommander d'un Belmondo que tu aimes?
Il faut voir L'Incorrigible, qui est donc l'une des dernières collaborations avec De Broca, parce qu'ils vont finir fâchés. Et c'est drôle.
75, donc.
Qui est écrit par Michel Audiard. Et je trouve où Belmondo, alors cabotine, mais dans le bon sens, au service du film.
En une phrase, ça raconte quoi, L'Incorrigible, rapidement?
C'est l'histoire d'un menteur et qui truande un peu, fait plein de petites affaires. Il va tomber amoureux de Geneviève Bujold, qui est assistante sociale. Mais lui, il vit dans une roulotte avec Julien Guillaumard. tout le monde aime Julien Guillaumard, il suffit de le voir pour l'aimer. Il y a une poésie dans ce film, il y a la poésie de Broca et la fantaisie de Belmondo qui se conjuguent assez bien. Alors le film est inégal pour plein de côtés, mais c'est
il est à voir. L'Incorrigible de Broca avec donc Jean-Paul Belmondo, ben voilà, qui conclut parfaitement ce troisième et dernier thème de notre émission consacrée à 73. Et l'émission n'est pas tout à fait terminée, vous le savez bien sûr, on ne va pas se quitter sans vous donner notre petite recommandation très rapide. Bien on y va sans plus tarder. Voici le moment de nos coups de cœur des années 73, les films qu'on n'a pas pu évoquer dans nos trois grands thèmes de l'émission, mais qu'on a quand même envie de vous recommander. Toi, Jérôme, t'avais un film en particulier que tu voulais recommander aux auditeurs de cette année 73.
Bon, c'est facile, mais c'est L'Emmerdeur d'Edouard Molinaro. C'est écrit par Weber.
Ouais, ça raconte quoi?
Là, c'est pareil, c'est une comédie, mais ancrée dans la réalité. C'est-à-dire que ça démarre par Lino Ventura, qui joue un tueur à gages qui doit faire assassiner un homme politique. Donc... qui n'a pas un pitch de comédie au départ, et qui va être gêné par son voisin, parce qu'il tire d'un balcon, et le voisin dans la chambre d'hôtel d'à côté est Jacques Brel, qui va tenter de se suicider parce que sa femme l'a quitté, et il va pas arrêter d'emmerder Ventura et l'empêcher de faire son contrat. Je crois que ça s'appelle Le Contrat, c'est une pièce de théâtre au départ, adaptée par Molinaro. Et alors évidemment, c'est la mécanique Weber de comédie qui fonctionne.
Qui sera repris plus tard avec La Chèvre, qui sera repris
et dont Weber fera un remake d'ailleurs assez raté, et Billy Wilder en fera un aussi complètement raté aussi. Mais le film de Molinaro, ce que j'aime, c'est qu'il y a la mécanique Weber drôle, et on rit énormément parce que Brel est très drôle, et il y a l'émotion de la du jeu en fait de Brel, qui en plus était ami avec Ventura, ils s'étaient rencontrés sur L'Aventure seule aventure. C'est l'époque où Brel a arrêté la chanson, enfin en tout cas la scène, et il se lance dans le cinéma, donc il va être aussi réalisateur, il va jouer dans Mon Oncle Benjamin. Moi, c'est un acteur qui apporte vraiment beaucoup de choses. Il est à la fois drôle, mais il apporte beaucoup de mélancolie dans les rôles qu'il va défendre. Il y a une alchimie d'un duo entre Ventura et Brel qui est quand même ça fonctionne très très bien, parce que Ventura il joue évidemment il joue pas drôle. Il joue tueur à gage.
Il joue Ventura. Il joue Tonton Flingueur.
Il fallait pas du tout faire dans la parodie et dans l'humour. Et l'autre met l'agace à un point, mais on a envie de le tuer, quoi, Brel. C'est un film formidable. Et qui montre bien que y a à la fois le scénario est important, mais les acteurs sont importants. Quand Weber va faire son propre remake avec Richard Berry et Tim Seat, mais ça va être une catastrophe parce que le duo est tellement mythique entre Brel et Ventura qu'il sera impossible d'imaginer quelqu'un d'autre en fait. Mmh. Alors que le scénario a été rejoué même en pièce et tout ça. Donc et puis Brel Ventura, ça cartonne, c'est vraiment extraordinaire.
L'Emmerdeur donc. De Francis Weber, formidable, 73, le duo Jacques Brel, Lino Ventura. Merci pour cette reco, Jérôme. Moi, de mon côté, ma petite recommandation sera le film Mon nom et personne de Tonino Valéry avec Terence Hill et Peter Fonda, qui est pourquoi je le recommande. Alors c'est un western un petit peu particulier puisque c'est une comédie de western, un western comique. Et pourquoi je le recommande, parce que moi c'est l'un des films qui a peut-être injecté en moi, on va dire, la curiosité du cinéma, parce que je me souviens le regarder à 10-11 ans dans un de mes premiers DVD que j'avais, et de lancer et de voir les bonus et de revoir le film et de passer d'un chapitre à l'autre, etc., etc. Et c'est assez drôle puisque c'est un film qui est donc réalisé par Tonino Valéry, on va dire l'héritier, on va dire de Sergio Leone, et c'est une idée de Sergio Leone à la base. Sergio Leone qui ne s'empêchera pas de également tourner quelques scènes du film, quelques séquences.
Alors beaucoup selon Sergio Leone et beaucoup moins selon Valéry, mais la réalité
est troublée entre ce qu'il a vraiment tourné, ce qui est vraiment dans le film, ce qui n'est pas tourné dans le film.
On sait, mais Leone a beaucoup exagéré, voilà. Parce que Leone est producteur sur le film.
Exactement.
Et c'est la rencontre entre le cinéma, le western américain. Et le western italien, parce que c'est Terence Hill et Henry Fonda. J'aime beaucoup le film, c'est très très drôle.
C'est très drôle, faut le dire. Effectivement, c'est une histoire d'une légende de l'Ouest. Donc on est en 1899, on est vraiment à la fin. C'est un western de crépusculaire, mais comico-crépusculaire, véritablement.
Mais c'est pas impitoyable, quoi.
Mais c'est pas impitoyable, voilà. Et du coup, Henry Fonda
passe la main,
envie de partir en Europe et envie de partir de l'Ouest pour aller vivre sa retraite en Europe. Sauf qu'il y a Terence Hill qui, lui, est fan du cow-boy qu'il a représenté pendant ces belles années.
La légende.
Et du coup, il va l'aider à se venger et à notamment abattre une horde qui sème la terreur dans la région. Et comme tu l'as dit, c'est très comique. T'as des scènes vraiment burlesques avec des accélérés avec Terence Hill, la scène des baves dans le saloon. Bref, c'est assez drôle, c'est assez comique. Et en même temps, t'as des immenses scènes épiques, notamment le face-à-face final avec l'attaque de la horde, le train, des choses magnifiques avec une musique sublime. Mais aussi, voilà, pareil, typique de cette année-là. C'est un film que j'aime beaucoup, moi.
Je ne sais pas si le film est encore très connu aujourd'hui. À l'époque, c'était un énorme succès. Et puis moi, je me souviens de diffusion télé où quand il passait, c'était la folie le lendemain dans les cours de récré.
En tout cas, Mon nom et personne, c'est un film qui est très agréable, très rigolo et que je conseille. Donc c'est ma petite recommandation, Mon nom et personne de Tonino Valéry. Voilà qui conclut cette émission, cet épisode d'Année Lumière consacré à l'année 1973. J'aimerais bien sûr remercier mon invité, Jérôme Mouillon. Merci beaucoup, Jérôme.
Merci, Thibaut. Et je le répète, j'aime beaucoup Belmondo. Hein. Faut pas croire. Hein. Je me suis laissé emporter, mais c'est un acteur fabuleux. Et,
bah oui, bien sûr.
Et il a une filmo, pas terrible sur la fin, mais avant, c'est. Mais bon, toutes les filmos sont comme ça. Donc,
bien sûr.
Voilà, c'est pas grave.
C'est pas grave, on l'aime beaucoup. Merci en tout cas d'avoir partagé ton cinéma avec nous. Merci également aux partenaires de l'émission, le magazine Cinématiseur et Tsugi Radio, qui nous accueille ici dans son studio de la Villette à Paris. Enfin, un immense merci à vous, chers auditeurs, pour votre écoute, votre soutien et votre fidélité. N'oubliez pas de partager cet épisode, de suivre le compte Twitter d'Année Lumière et de soutenir l'émission via le site Utip. En attendant, moi je vous donne rendez-vous le mois prochain pour une nouvelle émission. Salut à tous.